Bonjour, c'est Stéphanie Lehugé. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le chemin de ma philosophie. Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Je suis contente d'accueillir une invitée qui a un profil peu commun en philosophie pour parler de ses travaux sur la sensualité. Anaïs Lestringuet, elle est à la fois philosophe et également thérapeute psychocorporelle, praticienne en sophrologie et psychoposturologie. Et ses recherches, elles portent principalement sur l'esthétique, la conscience, la spiritualité. Et aujourd'hui, on va parler avec elle de son ouvrage qui va bientôt paraître chez l'Harmattan, qui s'intitule « À la recherche de l'inaccessible sensualité ». Elle y développe une perspective philosophique originale et qui s'appuie sur des références dans des domaines très variés, artistiques, littéraires, plastiques, cinématographiques. Et on va discuter de ses travaux sur la sensualité aujourd'hui. Donc, ton livre, il s'intitule « À la recherche de l'inaccessible sensualité », petit clin d'œil à Proust. La philosophie, c'est vrai que ça semble souvent perché dans le monde de l'esprit et des concepts. C'est pas si souvent qu'on y fait appel pour traiter d'un sujet en lien avec le corps. Toi, est-ce qu'il y a une raison qui t'a poussé à t'intéresser au sujet de la sensualité?
Je voulais absolument faire quelque chose sur le corps. Parce que c'était des sujets à l'époque qui me plaisaient, au niveau philosophique, l'esprit et tout ça, ok. Purement, voilà, un sujet Descartes ou Kant, ça m'intéressait pas trop. J'avais envie d'explorer quelque chose de nouveau. Et donc, vu que j'étais plutôt dans une perspective artistique, j'étais vraiment dans une phase de ma vie où j'étais dans l'art. À l'époque, je vivais en Autriche, à Vienne, et je visitais beaucoup les musées, donc j'étais vraiment dans cette phase-là. J'ai tourné autour de l'idée de la statue, du nu féminin, aussi de l'art du striptease, enfin, l'art de striptease, si on peut parler grand art de striptease. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose de corporel et d'artistique. Pourquoi pas aller vers quelque chose de différent. Et je ne sais pas pourquoi je suis venue sur le thème de la sensualité, parce que je pense que c'est un sujet qui était là au fond de ma tête, un adjectif qui était là au fond de ma tête, que j'aimais beaucoup, que j'utilisais peut-être beaucoup, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, la sensualité, tout ça, c'est venu comme ça. À force de réfléchir sur ces sujets, je me suis dit, ah, la sensualité, c'est vrai que conceptuellement, j'ai jamais lu quelque chose là-dessus. C'est comme si c'était un petit concept, voilà, qui n'était pas déployé. Et moi, ce que j'aime bien en philo, c'est de réfléchir sur des choses qui ne sont pas forcément réfléchies. Et voilà, des petits manques, en fait, philosophiques. Et puis bon, c'est pas un énorme concept, c'est pas un gros concept. Ah, la politique, la beauté, le droit, tout ça, c'est pas un gros concept, mais c'est un petit concept qui participe de la réflexion. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est le petit truc auquel on pense pas, petit concept auquel on pense pas, mais qui est un concept en fait qui n'est pas réfléchi. Voilà. Ouais.
Et toi, comment tu le distingues, la sensualité de la sexualité? C'est quoi la...
La
ligne que tu...
que je dresse. Alors après, je pense que c'est très personnel dans le sens où...
Oui, sans doute.
Moi, j'ai voulu aussi faire un sujet qui parlait de la subjectivité, parce que je pense que c'est un sujet qui amène beaucoup la subjectivité. Donc c'est pour ça que quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, j'ai posé la question sur mon feed Instagram, c'est quoi pour vous la sensualité? Alors, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de l'expérience charnelle, de la sexualité. Et pour moi, ça ne relevait pas que de ça. Donc, quand j'ai discuté avec ces personnes, tout ça, j'ai bien vu qu'il y avait les deux ensemble, sexualité et sensualité. Et d'ailleurs, quand je le dis dans le livre, quand on parle de la sensualité ou de l'érotisme, le mot sensualité revient souvent. Dans les ouvrages, c'est sensualité, érotisme, tout ça, on les met ensemble. Et je me suis dit, mais en fait, pour moi, la sensualité, c'est pas que ça. Certes, la sensualité, ça participe de l'érotisme, de l'amour, j'en parle aussi de l'habillement, tout ça. Mais c'est pas que ça. Après, il y a la chanson d'Axel Red, Insensualité, qui je trouve est pas mal, même pour réfléchir. Je pense qu'elle a compris certaines choses.
Ouais.
Pour moi, la sensualité, c'est pas que l'érotisme, c'est une expérience qui a quelque chose d'érotique, mais qui peut se retrouver dans pas mal de contextes. Et je me suis dit, à partir de là, on peut pas dire que la sensualité, c'est que de l'érotisme. Parce que sinon, on n'aurait qu'un mot. Je me suis dit, s'il y a deux mots, je pense que c'est pas pour rien, c'est que ça renvoie à une autre réalité qui est pas juste la réalité de l'érotisme, de la sexualité. Donc voilà, à partir de là, je me suis dit, il faut que la sensualité, elle ait son propre concept, son propre déploiement théorique, parce que pour moi, ça ne relève pas que de la sexualité. On peut vivre des moments sensuels, des instants sensuels, sans être dans un contexte sexuel. Voilà.
Ouais, complètement. Et tu disais tout à l'heure que t'étais revenu, enfin tu l'avais vu dans le concept aussi de beauté, parce que t'étais passé par l'art et du coup la sensualité c'était venu dans ce contexte-là. C'est quoi pour toi le rapport entre la sensualité et la beauté? Parce que
Alors
du coup
là,
la beauté c'est plus joli entre guillemets que, enfin plus joli, c'est pour le coup c'est très subjectif, mais c'est plus, je sais pas, plus doux comme association que la sexualité.
Oui, c'est clair que quand on associe sensualité et beauté, c'est complètement différent de sensualité et érotisme ou sexualité. Pour moi, vraiment, la sensualité, elle est quand même beaucoup plus tributaire de sa grande sœur, pour moi, la beauté, que l'érotisme. J'ai essayé de montrer, en fait, c'est vraiment ça, tout le travail théorique, conceptuel que j'ai fait, c'est qu'en fait, pour moi, la sensualité, c'est un concept, un sous-concept de la beauté. Ça participe de la beauté, mais ce n'est pas la beauté. Il y a vraiment une indépendance conceptuelle et pour moi, de l'expérience de la sensualité vis-à-vis de la beauté. Et la sensualité, c'est pas l'amour, c'est pas le charme, c'est pas la beauté, c'est pas l'expérience esthétique. C'est vraiment des expériences différentes. Donc j'ai essayé de montrer vraiment l'indépendance de la sensualité vis-à-vis de ces autres concepts. Et en quoi c'est relié à la beauté? Pour moi, la sensualité, ça reste une expérience quand même, une forme d'expérience esthétique reliée au beau. Mais c'est une expérience différente de la beauté, dans le sens où pour moi, la beauté, surtout comment elle est définie par les philosophes, pour moi, la beauté, il y a un rapport distanciel. C'est-à-dire que dans le jugement, entre le jugement c'est sensuel et c'est beau, il y a tout un monde. Quand on dit c'est beau, il y a une sorte de distance. C'est beau, on l'utilise, c'est beau pour, par exemple, une peinture, une musique. Donc, il y a une sorte de distanciation, parce que la peinture, elle est distancée de nous. Voilà, c'est un beau film, c'est distancé de nous. Mais la sensualité, c'est sensuel. C'est beaucoup plus dans l'incarnation, c'est beaucoup plus dans le corps, parce que la sensualité, elle fait appel à les cinq sens. On dit rarement, quand on goûte un plat, c'est beau. On dit c'est bon, mais on peut dire que c'est sensuel parce que y a le goût qui fait appel aux cinq sens. Donc dans la sensualité, je pense que ce qui est différent par rapport à un jugement esthétique, le c'est beau, c'est que c'est avant tout un jugement qui met ensemble cinq sens. Et après, il y a quelque chose aussi qui est moins défini que la beauté, parce que la beauté, c'est vraiment des critères esthétiques, des canons, tout ça, même si les artistes, ils ont tenté de les casser avec tous les courants artistiques qu'on peut connaître, le modernisme et tout ça, avec des choses qui sont assez conceptuelles et tout ça. Mais la sensualité, déjà, c'est une expérience aussi qui n'est pas prédéfinie. Le beau, c'est prédéfini, c'est-à-dire qu'on crée, c'est un objet, que la sensualité, c'est avant tout, c'est un moment. C'est un moment, c'est une expérience, c'est-à-dire que ça se passe dans le corps, ça se passe dans les cinq sens. C'est quelque chose aussi qui nous prend à dépourvu. C'est une question du kairos, du hasard. C'est vraiment une combinaison esthétique d'éléments naturels ou d'éléments aussi qui ne sont pas forcément naturels, qui sont de la création de l'homme, qui se combinent. Et là, il y a quelque chose d'harmonieux. Alors, c'est vrai que j'en parle du coup, je parle de certaines expériences sensuelles dans mon travail. Est-ce que, quand on dit, je ne sais pas toi Stéphanie, est-ce que quand tu as lu ça, tu t'es dit, ah mais si, ça me fait écho.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est très subjectif. Dans la sensualité, il y a moins ce rapport à la beauté qui va être presque plus dans la tête.
Et effectivement, il y a quelque chose de très expérientiel dans la sensualité. C'est pas...
Oui.
Enfin, on peut difficilement trouver quelque chose de sensuel et rester que dans sa tête, quoi. Je suis d'accord avec toi qu'il y a clairement un rapport... Enfin, il y a un rôle du corps qui est particulier. Et c'est vrai que la philosophie, de manière générale... Enfin, si, il y a... Enfin, justement, c'est assez... c'est plutôt dans les nouveaux courants qu'on parle de la perception comme étant un élément essentiel pour comprendre le monde. Et le monde, c'est pas que des concepts, ouais. Et c'est pas que des idées sur un papier, quoi.
C'est ça, ouais. Ouais, ça m'a toujours embêté en philo, c'est ce côté figé. Je pense qu'il y a des choses que les philosophes peuvent pas appréhender s'ils se mettent que du point de vue de la philosophie. Il faut se décentrer un petit peu du modèle très, très carcan, en fait, au final, de la philo. Et moi, j'ai jamais été vraiment trop d'accord avec Kant sur certaines choses, par exemple, ou d'autres philosophes, ou même Platon. Je me suis dit, mais... La morale est très fortement associée aussi à ces concepts-là, que nous, on est quand même dans une ère pas moins morale, mais où il y a quand même une grosse scission morale. Les choses sont plus éclatées.
Ouais.
On est vraiment dans une... Je pense un jaillissement aussi perpétuel. Et la morale était quand même vachement alignée avec les concepts, associée très fortement. Et nous, c'est plutôt périclité, donc... ça nous laisse plutôt plus d'espace pour réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, mais c'est vrai que moi, je ne me retrouve pas, et je pense que les artistes ne s'y retrouvent pas non plus, que c'est complètement... voilà, quoi. Si nous, les philosophes, encore une fois, dans la grande famille de la philosophie, on veut réussir à penser les choses, il faut qu'on se dise aussi... faut pas qu'on se mette au-dessus et qu'on se mette aussi un peu en dessous, dans le sens... moi, je pense que l'art... transcende la philosophie sur pas mal de choses, comme la psycho en fait, et que la philo, ça reste c'est certes une discipline très chouette, très intéressante et très importante, mais que sur certaines choses elle a des œillères ou des blind spots, et qu'il faut pas non plus se couper de ça. Quoi.
Après, c'est la philosophie d'avant. Hein. Enfin, il y a un côté où c'est... Vu qu'en philosophie, on étudie beaucoup de choses qui sont d'une autre époque, c'est pas illogique que ce soit une vision du monde qui soit un peu décalée avec notre ressenti à nous. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait des philosophes aujourd'hui qui arrivent à montrer comment regarder le monde un peu autrement. Et je trouve ça intéressant... comment toi, tu, par exemple, tu t'explicites que la sensualité, ça influence notre connexion avec le monde et avec les autres, par exemple.
Oui, oui, oui. Mais je pense que tu as tout à fait raison. L'histoire de la philosophie, elle est toujours à écrire. Donc, il y a toujours plus à réfléchir et à penser. Donc, même si on est très référence ancienne, Platon, tout ça, il y a des philosophes qui font des choses encore aujourd'hui et... C'est pas un vieux truc poussiéreux.
Il y a des femmes maintenant. Et franchement, ça fait une vraie nouvelle vision aussi du monde.
C'est clair.
Il y avait quand même 50% de la population je peux pas dire qu'il y ait une philosophie des femmes. Ça aurait pas de sens. Mais c'est sûr que si on demande jamais l'avis d'une seule femme, on a quand même une opinion biaisée. C'est évident, en fait. C'est juste évident.
Ah, mais carrément. Mais là, il y a plus de femmes et... moi, je pense, par exemple, je ne sais pas si tu connais, mais certainement Claire Marin, qui fait des super travaux sur plutôt une philosophie de l'intime. Être à sa place, rupture. J'ai lu ces deux livres-là. Je pense qu'elle en a...
Oui, je suis d'accord. C'est complètement les femmes d'aujourd'hui.
Sur l'intime,
quoi.
Et tout. C'était un besoin. C'est peut-être des sujets qui, limite, versent dans la psychologie, en fait. Mais du coup, c'est ça qui fait que ça transperce peut-être des choses, ça fait péricliter pas mal de choses, parce que pas mal de murs, pas mal de frontières, parce que justement on est enfin sur des sujets qui aussi parlent du quotidien et qui sont pas dans les grandes mais ça fait sens aussi. Ça fait carrément sens, donc super qu'on puisse réfléchir à ces sujets-là, à des sujets de l'intime, parce que il y a rien de plus c'est ça la vie, exactement. C'est les gens, ils se retrouvent plus. Je pense que si elle a eu autant de succès Je pense qu'il y a des non-philosophes, des non-initiés à la philosophie qui l'ont lu, parce que justement, elle est dans le concret. Elle est dans la proximité. Et je sais que voilà, elle a eu un succès fou, parce que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est grâce à ça.
C'est rigolo, parce que tu dis, c'est parce qu'elle est dans le concret. Et toi, justement, t'as parlé du rôle de l'imagination et du rêve dans notre expérience de la sensualité. C'est quoi pour toi le rôle ?
Ah ouais, super important. Super important, parce que je pense qu'on s'ouvre aussi à l'espace sensuel, l'expérience sensuelle, quand on a quand même une part de nous qui est ouverte à l'imagination, à l'expérience, en fait. Je pense que quelqu'un qui est toujours stressé, qui est toujours tendu, qui n'est pas ouvert aussi à ses expériences, ne comprend peut-être pas ce que c'est l'expérience sensuelle. Moi, j'en parle, en fait, dans l'ouvrage d'une certaine expérience que j'ai pu faire quand justement j'habitais en Autriche. C'est voilà, ce moment où je suis rentrée dans un magnifique parc viennois où d'un seul coup, voilà, il y avait plein de roses. C'est le parc le Volksgarten à Vienne, où il y a plein de roses magnifiques. Et d'un seul coup, tu as du... Ça embaume. C'est incroyable. Ça embaume. Donc, t'as des odeurs, mais incroyables. Et donc, j'avais ça d'un seul coup. Donc, déjà, visuellement, esthétiquement parlant, t'as déjà une expérience esthétique, parce que le parc est magnifique. Et puis, pour moi, c'était une expérience sensuelle, parce que tu as d'un seul coup toutes les odeurs. Enfin, ça embaume. Et j'avais mon petit casque sur les oreilles. D'un seul coup, voilà, j'avais une playlist qui passait comme ça. Je ne connaissais pas les morceaux. Et d'un seul coup, j'avais un morceau, mais qui coïncidait tellement avec le moment. Enfin, vraiment féerique, tout ça. Et moi, ça m'a mis... Enfin, niveau imagination, ça m'a mis dans... Enfin, j'étais pas dans un simple parc, quoi. J'étais dans un lieu, mais féerique, fantastique. Vraiment... Waouh, quoi. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient alignées pour vivre une expérience esthétique et pour moi vivre une expérience sensorielle, parce que et sensuelle, du coup, sensuelle, sensorielle, sensuelle, parce que du coup, quand on prend l'étymologie de la sensualité, c'est des sensations. Donc d'un seul coup, dans ton corps, tu as plein de sensations, mais t'es pas dans une expérience de vie banale, en fait. T'es pas c'est pas ton train-train quotidien. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'on peut aussi être dans une expérience sensuelle sans être dans des choses incroyables. Et pour vraiment illustrer ça, j'utilise un exemple cinématographique, donc Amélie Poulain. Donc il y a le moment où Amélie Poulain, elle plonge sa main, je crois que c'est dans un sachet de lentilles. Sac de grains, c'est ça, je sais plus trop, et elle ressent le truc. Et ça lui fait quelque chose. Bah, pour moi, c'est une expérience sensuelle. Parce que c'est tout bête, c'est un sac de grains. Mais c'est un petit bonheur, en fait. Elle plonge sa main. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Et oui, pour moi, il y a une ouverture à ces expériences. Et pour moi, une culture où la sensualité est particulièrement développée, c'est au Japon. C'est la culture japonaise, où tout est fait de signes. Tout ça, mon Roland Barthes, il en parle. C'est vraiment quand on lit les écrivains japonais, j'en parle dans l'ouvrage de Mishima, par exemple. J'ai découvert Mishima, qui a une écriture, mais ô combien sensuelle, magnifique, enfin, vraiment en fait de texture, de sensations, de sens, de... Vraiment, il utilise ça à fond, quoi. C'est pas une écriture froide, par exemple à la Modiano, où c'est vraiment l'écriture blanche, où c'est factuel, où c'est très tac, 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 tac. Non, du coup, plutôt dans l'orientalisme, on est vraiment dans une écriture de sens, et quand on lit Mishima, on se dit, mais c'est pas possible, déjà, c'est des ouvrages qui sont très, très épais, et il prend vraiment le temps d'être dans les sensations, les ressentis, les textures. Je pense que Proust, c'est pareil aussi, hein, c'est pour ça, la recherche de l'inaccessible, les sensualités, c'est Proust, il disait, mais voilà, moi j'écrirai plus tard parce que je veux vivre. Et il y a du vivre. Et en fait, on est peut-être trop dans notre tête au quotidien. Mais quand on se place quand on redescend dans son corps, qu'on se place, voilà, je pense que les gens, ils apprécient énormément leurs vacances. C'est parce qu'ils se mettent le plus possible dans leur corps. Quand ils sont à la plage, quand ils sont dans une vie plus contemplative. Bah, ils se mettent plus dans une position d'ouverture à l'expérience sensuelle. Je pense que voilà, on a tous été à un moment, peut-être que je parle pour moi, mais sur la plage, et à sentir le sable, à sentir l'eau, à sentir
la chaleur,
les textures. C'est vraiment hyper... Voilà, la chaleur sur la peau. C'est comme voilà, Monica dans le film de Bergman qui, voilà, qui prend le soleil. Enfin, c'est cette image-là, quoi, de réussir à capter tout ça. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une façon de s'ouvrir à la sensualité qui peut être quotidienne. C'est vraiment une dynamique de regard, bah, de perception, hein, tout simplement. On est dans un sujet quand même assez féminologique,
oui,
finalement. C'est complètement ça, pour moi, c'est vraiment un sujet de féminologie.
Et en même temps, c'est intéressant, voilà, parce que tu fais quand même le lien, donc il y a cette importance du corps dans la sensualité, et tu fais quand même le lien entre la spiritualité et la sensualité.
Oui, parce que je pense que, de toute façon, même si on a l'impression qu'avec certaines cultures, certaines religions, notamment chrétiennes, le corps, il est bafoué, c'est limite... oh là là,
c'est mal.
Voilà, on doit se flageller, le corps, c'est mal. Bah, c'est ce que dit Nietzsche, de toute façon, voilà. Le corps est très spirituel, il faut la scission, il faut qu'on arrête de la faire. Donc moi je suis thérapeute, je suis thérapeute psychocorporelle, donc pour moi le corps, l'esprit, non, en fait la distinction elle est faite, c'est une distinction qui est conceptuelle, c'est pas une distinction dans le vécu, dans le vécu on n'est pas le corps, l'esprit, mais le problème c'est d'être trop dans cette scission. C'est comme le bien et le mal, oui, mais c'est une distinction qui est conceptuelle. Pour comprendre les choses on a besoin de clarté, on a besoin de les opposer. On a besoin de noir-blanc, mais dans le vécu, tout
n'est que spectre,
mélangé,
quoi.
Plus paradoxal. Voilà, tout n'est que spectre. Et c'était ça, voilà. Et après, je pense à toutes ces religions, ces spiritualités qui naissent du corps. Le bouddhisme, notamment.
Dans quel sens ça naît du corps ?
Penché oriental. Déjà, le fait est que le Bouddha originel, il s'est quand même posé sur un arbre, il n'a pas mangé, machin, et tout. Et après, ils se sont rendu compte, ah, oups, non, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre une spirituelle si je ne prends pas soin de mon corps, si je ne satisfais pas mes besoins. Donc le fait est d'être dans son corps. Et puis, il y a plein mal de religions où le corps est... On donne une importance au charnel, à la carnation. Je pense qu'aussi... La religion chrétienne le fait aussi, la résurrection du Christ, manger l'hostie, il y a de la carnation dans la religion chrétienne, dans la religion catholique, mais c'est que en fait je pense qu'il y a beaucoup de penseurs qui ont un certain regard un peu critique vers le corps, ou qui font donc vraiment des expériences très transcendantale. Par exemple Plotin, lui c'est vraiment moi je le corps ok, le corps je le transcende, mais pour beaucoup de philosophes, de penseurs, le corps a sa place, même Descartes, puisque quand même à la fin des méditations de métaphysique il dit il faut vivre, et il le dit à Elisabeth de Bohème, si je me trompe pas, s'il faut vivre il faut... oui, c'est des conceptuels, c'est des conceptualisations qu'on fait, mais au final, il faut aller dans la vie. Bergson le dit, Nietzsche le dit, c'est la vie, quoi, au bout d'un moment.
C'est-à-dire qu'on peut pas voir le monde autrement que par notre propre prisme, et notre propre prisme, il inclut notre corps, en fait. Notre esprit, il est dans notre corps, il n'est pas... c'est pas un truc qui flotte à côté.
C'est ça. Mais c'est ça, l'intelligence aussi s'incarne aussi dans le corps, donc de dire que que Descartes ou un tel ou Kant, c'était vraiment que de l'esprit pur dans une boîte qui flotte, je sais pas, enfin non, c'est s'ils sont arrivés à telle ou telle conclusion, c'est aussi parce qu'ils étaient dans leur corps.
Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que Descartes, comme tu dis, avec Elisabeth de Bohme, il est vraiment revenu, et c'est ça qui... Moi, je trouve ça dingue qu'on ne retienne de lui que cette scission entre le corps et l'esprit, alors qu'à la fin de sa vie, il est complètement revenu dessus. Il l'a écrit, enfin, c'est pas comme si c'était caché quelque part. Il a dit, non, ce n'est pas complètement séparé. Oui, bien sûr, l'un va dans l'autre et inversement. Oui, nos pensées peuvent influencer la manière dont on se sent. On peut tomber malade, on peut être en dépression parce que on se sent pas bien dans notre tête. Et inversement, si on n'est pas bien dans son corps, ça peut nous pourrir la vie
Mais c'est
et nous
ça.
rendre tristes. Et
Mais on
pourtant, personne n'a
retient.
retenu ça. C'est dingue, c'est fou.
Mais oui. Et mais c'est là que c'est drôle parce qu'on se dit, comme tu dis, c'est vraiment retenir. C'est en fait, on a, je pense, des philosophes qui sont quand même bien plus subtils, bien plus riches. Sinon, on les utiliserait plus. Si c'était aussi simple et linéaire, Descartes, ça fait un moment quoi, voilà. Descartes, Kant et autres. Hein. Mais en fait, non, les cocos,
Je
genre, je l'ai
réfléchis,
dit, on
heureusement.
retient toujours les. Mais oui, et on retient que les trucs extrêmes. Et ça, c'est l'humain, je pense. Là, du coup, on est vers le côté psychologique de la chose. C'est pourquoi on retient ça? Pourquoi on retient cette scission-là? Pourquoi on retient pourquoi voilà Dieu est mort de Nietzsche, on comprend pas la subtilité derrière? Ou alors par exemple, j'entendais l'autre jour dans une émission télé complètement déformé le propos de Simone de Beauvoir. On n'en est pas, c'est quoi déjà?
On ne naît pas
On
femme,
n'en
on
est
le
pas femme, on le
devient.
devient. Alors que c'était pas du tout dans un sens où voilà, en fait, tu peux choisir d'être femme, alors que c'était pas du tout
Ah
ça
non.
qu'elle disait du tout.
Non.
Et en fait, complètement, complètement
Galvaudé,
distordu, déformé, quoi. Alors que voilà, par des activistes trans, hein, pour qu'on nomme les choses, alors que c'était pas du tout ça qui était dit. Et le problème, c'est qu'en fait, ben c'est comme tout. Il y a des gens qui sont très extrémistes, donc qui vont déformer les choses. C'est comme le marxisme. Le marxisme, en fait, ce qu'il disait Marx, c'était pas trop con. Mais ça a été poussé à l'extrême. Et on a du communisme extrême qui enfin, voilà, ça donnait des dictatures. Donc en fait, c'est ça qui est assez drôle. Même Nietzsche, hein, Nietzsche, voilà, ces scissions-là, cette rupture, en fait, qui s'est opérée. Bah, ça a donné des choses très excessives comme le postmodernisme où il y a vraiment des choses qui sont excessives. Non, les choses sont beaucoup plus modérées, hein.
Ouais,
La
en
vie
général,
n'est
les philosophes, ils sont
pas.
quand même plutôt dans la nuance, quoi. Quand même.
Ah
Ils ont
oui,
des
bah
opinions, mais
oui.
quand même.
Je pense que c'est ça un bon philosophe. Un bon philosophe, il n'est pas si radical que ça, quoi. C'est même Kant ou quoi, Kant, c'est quand même celui qui est venu faire le tri dans tous ces problèmes métaphysiques. Il est pas radical, quoi. Il est pas non, ouais. C'est ça qui est étrange.
Ouais, je suis d'accord. Et toi, tu parles de sensualité. Est-ce que tu penses qu'on peut être éduqué à la sensualité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... Enfin, est-ce qu'on peut être amené à ça?
Moi je pense que oui, je pense qu'on a tous à partir du moment où on a tous la capacité de sentir. Oui, autant des gens la beauté, des trucs esthétiques, voilà. Je pense qu'on a tous plus ou moins une ouverture plus ou moins grande à l'esthétique. Il y a des personnes pour qui c'est très important, d'autres pour qui c'est moins important. Il y a des personnes, par exemple, qui sont plus sensibles à la peinture, tout ça. Bon, bah, ça, c'est de l'esthétisme. Mais je pense dans le sens de ressentir, à partir du moment où t'aimes les vacances, par exemple, j'en parlais tout à l'heure,
Oui, c'est vrai.
les vacances, pour moi, c'est une période. C'est sensuel dans le sens où, voilà, généralement, on renoue avec son corps. Pourquoi les gens, ils sont hyper contents d'aller en vacances? Ils se disent, voilà, j'ai que mon corps à m'occuper, j'ai que mes besoins à satisfaire, j'ai que cette ouverture à voir, je ne me mets pas de pression, je ne suis pas au travail. Pour moi, c'est ça. Généralement, on va quelque part, on est dans la rencontre d'éléments nouveaux, parce qu'il y a cet élément de nouveauté dans la sensualité, bah, c'est s'ouvrir à l'inconnu, c'est s'ouvrir à ce qui peut venir, ce qui peut arriver. Bah, ça, c'est voilà, c'est un contexte. Après, bah, pour moi, c'est aussi bah, se dire comment je regarde les choses, comment j'éduque mon regard, voilà, le jeu des lumières, observer un coucher de soleil, comme le dit Bergson, voilà, le coucher de soleil, l'expérience de la durée, pour moi, c'est l'expérience de la sensualité. Je pense que si Bergson était là, peut-être qu'il serait d'accord,
Et toi, t'expliques ça
mais pour
que dans la
moi.
sensualité, t'as l'œil qui traverse les couches, les matières. Te dire quoi par ça,
Ouais,
ouais.
pour moi, il y a quelque chose de hyper tâtant, en fait, comme si voilà, tout était matière, texture. Même si tu as l'impression que tout est distancé. Quand tu es dans l'instant sensuel, pardon, il y a cette impression de palper les matières, de limite ton œil qui touche. C'est vraiment l'œil haptique.
Ouais.
C'est vraiment, on a l'impression qu'on peut ressentir les choses, ce contact, voilà, sur la peau. C'est aussi bah, une histoire de peau, hein, le moi peau, c'est vraiment de sentir toutes ces couches, toutes ces textures. Moi, c'est cette impression-là que j'ai dans l'expérience de la sensualité, parce qu'il y a tellement de sens qui se combinent que ça donne quelque chose de très... De vraiment dans la matière, dans l'incarnation. C'est vraiment un retour à la chair. C'est quelque chose de soliptique dans le sens où vraiment on revient à soi. Hein,
Ouais.
C'est une expérience où on revient à soi, pas en tant qu'expérience de connaissance, mais peut-être en connaissance pure, dans le sens factuel, mais en tant que connaissance de soi. Et donc, je pense que oui, en fait, c'est se sentir comme un corps, hein, tout
Ouais. Et du
simplement.
coup, c'est important dans notre vie quotidienne pour toi d'apprécier la sensualité.
C'est important. C'est important de sentir son corps. Après, là, c'est aussi la thérapeute qui parle, parce que c'est ce que je répète souvent à mes patients. C'est important de sentir son corps, parce qu'en fait, on n'y a pas la tête et d'un côté le corps. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, je suis scindée en deux, j'ai ma tête d'un côté et j'ai le corps de l'autre. Mais en fait, c'est très bizarre parce que les gens ont l'impression qu'il y a la tête, leur cerveau est là,
Ouais.
et après, il n'y a plus rien. Non, 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 le cerveau, il est dans tout le corps. Il y a la moelle épinière, il y a tout ce...
Tout communique
Il y a tout
avec.
ça qui compte, et en fait, tout communique avec. Et moi, je travaille beaucoup sur l'implicite, en fait, parce qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans la sensualité. Moi, je travaille sur l'implicite dans mon cadre thérapeutique. Et je leur dis, mais en fait, vous ressentez des choses, des images, des formes, des couleurs. C'est votre corps qui parle. Et il y a des choses qu'on n'a pas forcément de mots pour toutes les choses. Et je pense que des fois, la sensualité, c'est un peu ça. C'est des expériences où il y a quelque chose de flottant, de mystérieux, de dans le ressenti. Et on n'a pas forcément un mot pour dire, oh, je ressens de la tristesse, ou oh, je ressens. Non, c'est une expérience un peu plus douce, un peu plus mystérieuse. Voilà.
J'aime bien dans ton clin
Moi,
d'œil
je
à la recherche
définis
du temps
comme ça.
perdu, il y a... Bah, je trouve que dans son livre, il y a ça, le fait qu'il y ait des échos dans le temps d'expériences physiques. Oui, bon, il y a la fameuse Madeleine de Proust, mais pas que, en fait, il y en a plusieurs, des exemples dans le livre. Et tu vois que, ah, il t'arrive un truc à un moment dans ton corps, je sais pas, un moment il est sur un pavé, et puis le pavé est un peu branlant. Et puis ça, en fait, ça le replonge instantanément dans un autre moment. Et comme ça, il y en a sûrement plein, implicitement, en fait, en tout cas, dont on n'a pas conscience, des moments où une odeur, un ressenti, une chaleur, la voix de quelqu'un, tellement de choses qui peuvent nous faire revivre quelque chose. D'ailleurs, toi, t'en parles, ça,
Ouais, ça
de
fait
la capacité
revivre.
de l'art à recréer un instant sensuel.
Ouais, parce que moi, du coup, ce qui m'a interpellée, ce dont tu parles aussi, c'est de la mémoire. Parce qu'en fait, à la recherche du temps perdu, de Proust, c'est
Oui.
carrément l'expérience, hein, c'est la mémoire, quoi. C'est, voilà, le temps perdu, bah, qu'est-ce que j'ai fait, machin et tout. Et oui, en même temps, il y a une forme de sensualité dans tout ça. De se rappeler de voilà la Madeleine, l'expérience du pavé qui ramène à des choses, les associations, hein, c'est là qu'il y a l'aspect créatif, du jaillissement, de l'imagination. Et tu me disais, oui,
Oui,
ta question c'était.
ouais, pour toi, l'art, ça permet de... Enfin,
Oui,
ça a
l'art.
la capacité de recréer un instant sensuel?
C'est ça.
Ouais.
C'est ça, c'est la capacité de. Pour moi, je distingue, en fait, je fais une typologie entre l'instant sensuel, qui est l'événement qui arrive à l'instant T, et l'image sensuelle, qui est du coup la recréation de l'instant sensuel, qui est la recréation de cette expérience. Alors, c'est pas l'événement sensuel en tant que tel, mais ça peut déboucher sur de la sensualité, sur l'expérimentation de la sensualité, donc de la recréation de la
Et du coup,
sensualité.
de la
Mais c'est vrai
transmission
que.
du ressenti d'une personne à une autre personne.
Exactement. Ouais, je pense, parce que du coup, je parle d'un peintre espagnol qui vraiment, je trouve que ce qu'il fait, c'est très sensuel. Bah, c'est beaucoup de figures féminines, c'est vraiment.
C'est
Putain,
quel
c'est
peintre?
super beau parce qu'il fait beaucoup de pastels. Alors, c'est Vicente Romero, normalement. Il fait des sublimes tableaux, vraiment. Alors, j'ai trouvé ça, hein, c'est pas quelqu'un qui est très connu, mais je trouve que pour le coup, son art est hyper sensuel, très beau, c'est très beau. Bah, Mishima, c'est très sensuel également. Si je cite d'autres, je pense que si la poésie, j'en parle, hein, du statut particulier de la poésie. Pour moi, la poésie, c'est hyper sensuel. Oui. S'il y a un arc hyper sensuel, c'est la poésie. Parce que voilà, on est sur... Bah, il y a beaucoup de sens avec la musicalité, le jeu des associations. Après, il y a la statue aussi. Mm-mm. Pour moi, c'est figé à un instant sensuel. Ouais. Parce que c'est l'incarnation, c'est le mouvement, c'est le beau geste, c'est hyper sensuel, la statuaire. Le fait est aussi que tu peux tourner autour de la statue, que tu peux la voir à différents angles. Pour moi, c'est très sensuel. Ouais. Je pense que l'art, il y a du sensuel dans l'art. Comme je disais, il y a du sensuel dans la musique, il y a du sensuel dans la sexualité. Pour moi, la sensualité, elle peut être partout. C'est pour ça que c'est ça qui est assez intéressant dans le travail de ce concept, c'est que la sensualité, elle est en filigrane dans pas mal de choses. Ouais. Et c'est ça qui fait aussi qu'elle est peut-être complexe à rechercher. Oui. C'est pour ça qu'on je parle à attraper d'inaccessible sensualité, c'est qu'elle est... de la ressentir, de pouvoir se dire « Ah, là, je suis vraiment l'expérience de la sensualité. Là, c'est parce que j'ai travaillé si conceptuellement. Maintenant, je peux me dire « Ok. » Mais... on s'en rend peut-être pas compte.
C'est un phénomène plutôt éphémère ou durable pour toi?
C'est éphémère. C'est un phénomène éphémère. C'est hop, d'un seul coup, on est saisi de ce quelque chose qui se passe en nous, qui est doux, qui est frais, qui est nouveau et qui est troublant. Et d'un seul coup, on a l'impression d'être complètement absorbé par le moment. Là, du coup, c'est pour ça que j'utilise Bergson, la durée, parce qu'on est... On se fond dans ce moment, et d'un seul coup, pop. C'est à la fois durable et éphémère. Il y a le paradoxe où c'est durable parce qu'on est complètement dedans, et éphémère parce que d'un seul coup, ça n'est plus. Et ça ne reviendra jamais comme c'est. C'est une expérience assez... Ça se renouvelle, mais jamais sous les mêmes formes. Il y a ce trop de trou qui vient toujours être troublé, en fait, l'expérience qu'on a. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai conçu. Ouais. En fait, c'est ce flux, c'est... Il y a quelque chose qui se passe, hop, et ça revient. Mais sous une autre forme.
Et pour toi, est-ce qu'il y a une perspective féminine sur la sensualité qui est différente de la perspective masculine?
Pour moi, c'est un sujet qui est féminin. Pour moi, la sensualité, c'est très féminin. Moi, je réfléchis beaucoup en concept féminin-masculin, de sexe, plutôt que parler de genre. Une penseuse qui m'a beaucoup aidée à travailler tout ça, c'est Camille Paglia, qui est une historienne de l'art, en fait. Elle, c'est vraiment là, et au niveau conceptuel, elle est vraiment bien, et au niveau du travail du corps, elle donne vraiment toute son importance au corps, et notamment, elle fait vraiment un travail conceptuel énorme entre le masculin et le féminin. Et elle montre en fait que le féminin, c'est quand même, c'est la nature, c'est l'inattendu, c'est le chaos et ordre. Le chaos, c'est plus le féminin, c'est plus le jaillissement, la créativité, la corruption, la destruction, la régénération. Et le masculin, c'est plus l'ordre, la création, la stabilité. Ça n'a rien de.
Mais il n'y a pas de jugement de valeur, c'est comme ça que c'est associé.
C'est pas un jugement de valeur. C'est la distinction conceptuelle classique, de toute façon, entre des cultures qui se retrouvent dans toutes les cultures, entre les religions plutôt féminines du mater et les religions du pater, de masculine. Donc vraiment, c'est ce qu'on travaille conceptuellement.
Lesquelles seraient de quel côté d'ailleurs, dans les religions, tu dirais?
Les religions du mater, c'est plutôt les religions... c'est encore plus les religions qui sont à l'œuvre dans le monde oriental. C'est plutôt les multiples divinités. Nous, on est quand même plus dans des religions patriarcales. Musulmanes, juives et chrétiennes, c'est quand même Dieu, machin. C'est la puissance masculine. Enfin, c'est quand même plus masculin. Enfin, Dieu, on s'imagine tous que c'est un mec barbu. Donc voilà. Mais les religions plutôt féminines, c'est les religions plus primitives, plus archaïques. En fait, c'est mère nature, plus ça qui est dominant. Par exemple, les Indiens, c'était vraiment mère nature, tout ça. Les populations autochtones, les, En Amazonie, tout ça, c'est des cultes de la mer.
Et est-ce que tu crois que du coup, quand une culture est empreinte de cette religiosité-là, qui est plutôt ou féminine ou plutôt masculine, ça a après un impact sur la perception de la sensualité de manière générale? Parce que je dirais pas, par exemple, que la culture judéo-chrétienne est très sensuelle, quoi.
Je pense, oui. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il peut y avoir peut-être plus de... d'aspects, il y a déjà plus d'importance. La mère en premier. C'est la mère nature en premier. Donc c'est le corps en premier. Après, peut-être que c'est trop... ce serait trop stéréotypé de dire que c'est que ça. Parce que je pense que la sensualité, elle est aussi bien développée dans nos sociétés, dans nos sociétés occidentales. Elle est aussi présente. Parce que le féminin, il est toujours présent. Et le féminin, voilà. Mais ce que montre cette pensée, ce qu'Amy Paglia, c'est que voilà, il y a une forme de supériorité du féminin dans conceptuellement, parce qu'en fait, tout vient du féminin. C'est mère nature. C'est d'abord nos sociétés étaient tournées vers la nature, vers le féminin. Et quand même, la femme, c'est la reproduction, c'est la capacité d'engendrer la vie. La sensualité, il y a de ça, c'est vraiment la vie, c'est le flux. C'est pour ça que voilà, j'en parle, le flux, c'est quand même vachement féminin, c'est quand même le cycle, c'est quand même vachement féminin. Que l'homme, c'est pas ce fonctionnement-là. Donc pour moi, il y a ça, et puis il y a aussi que le féminin, c'est la courbe, c'est la sinuosité aussi, en tant que femme, on a ça aussi. Et puis il y a quand même beaucoup plus d'appréciation du féminin dans la beauté, dans l'esthétique, que du masculin, même s'il y a quand même une appréciation du masculin, mais elle est différente. Je pense que voilà, le féminin, c'est la muse, c'est ce qui développe les sens, voilà quoi. Après, il y a pas mal de choses qu'on peut dire sur l'aspect féminin de la sensualité. Pour moi, oui, c'est plus féminin que masculin. Parce que le masculin, c'est plus le carré, la structure, la force brute. Et le féminin, c'est plus la cour, l'ambiguïté. Après, Camille Paglia, elle parle beaucoup de la caverne de la femme, de l'ambiguïté du féminin, parce qu'en fait, notre organe reproducteur, il est en creux. C'est mystérieux, on ne voit pas. Que l'homme, c'est extériorisé. Donc, il y a ce côté ambigu. Qu'est-ce qui se passe dedans? Est-ce que l'enfant est bien de moi? Je ne sais pas. Parce que je ne vois pas ce qui se passe. Mais qu'il y a l'ambiguïté de ce corps féminin. Et il y a quelque chose d'un peu plus chthonien. Elle reprend la distinction entre l'apollinien et le chthonien. Elle dit qu'il y a un peu plus de cette ambiguïté, de ce mystère vis-à-vis de la femme. Et c'est peut-être pour ça que la femme, elle est symbolique. Célébrée comme un... Soit elle est réduite, moi je pense qu'à l'extrême, soit elle est réduite parce qu'en fait c'est plus de l'inconscient, là on est plus dans l'ordre de psychanalytique, c'est assez éprouvant d'être confronté au mystère du féminin pour l'homme, pour les femmes aussi, c'est possible, mais c'est plus les hommes, donc il faut réduire le féminin parce que le féminin fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Elle peut accoucher, elle peut faire un enfant, moi pas. Elle a un cycle, et donc il y a cette forme qu'on peut dire un peu sexiste, peut-être mauvaise parce qu'il y a une sorte de peur du féminin, mais il y a aussi cette sorte de
divination,
d'éloge du féminin, de divination. Les femmes sont considérées comme des déesses via la poésie, via l'art. C'est vraiment le féminin, l'idéal féminin. Donc c'est un sexe qui fait que le sexe féminin il est obligé de il y a des tensions qui sont extrêmes quoi. Je pense il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Je pense
effectivement. Et comme on a parlé à un moment, j'aimerais bien qu'on te pose quand même une dernière question. Toi, si tu avais avec le travail que tu as effectué, vu que tu as beaucoup réfléchi, est-ce que tu aurais des conseils pour cultiver une approche plus sensuelle de la vie?
Des conseils, je pense que c'est s'ouvrir à son corps, en fait, prendre soin de soi, Ça vise à la limite dans le psychologique, mais apprécier l'esthétique des choses, en fait, ouvrir grand les yeux, éduquer sa perception, donc pas juste d'un point de vue, d'un point de vue art, dans le sens aller au cinéma, tout ça. Non, c'est aussi être dans la quotidienneté, donner plus d'appréciation aux choses du quotidien. Donc la nourriture, l'habillement, j'en parle énormément. Moi, je trouve que une façon de cultiver la sensualité, c'est d'apprécier se parer, s'habiller, de mettre du parfum, parce que le parfum, c'est hyper sensuel aussi. C'est cultiver la sensualité, de se dire, en fait, voilà quoi, d'être dans les odeurs, d'être dans le toucher, comme Amélie quand elle plonge, ça, voilà, de vouloir toucher les choses, de vouloir ressentir les choses, donc de vouloir amener des choses. Des expériences de son corps, parce que je pense que dans le quotidien, malheureusement, on est beaucoup dans notre tête, et oui, effectivement, on sent des choses, on est toujours en contact via les cinq sens, mais on ne prend jamais vraiment le temps d'apprécier les choses, d'être dans les sensations. Donc, prendre le temps d'être plus dans les sensations, dans les petits plaisirs du quotidien, d'apprécier de regarder le ciel, les nuances, ça, je pense, quand on a un beau coucher de soleil ou un beau lever de soleil, on le fait automatiquement. Mais d'être plus, de dire, voilà, il y a telle lumière, tout ça, il y a telle. Je pense que de toute façon, les artistes sont très comme ça, hein, aussi. Donc voilà, d'essayer de se rendre artiste parce que c'est là qu'on a plus d'idées de création, c'est là qu'est la vie, en fait, pour moi, tout simplement. Voilà, je pense
C'est joli.
que ça peut parler à beaucoup de gens. Ouais, c'est joli.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Bah
Toi, tu
écoute,
ferais comment du coup?
moi je ferais comment? Ouais, j'aime bien cette idée-là, assez simple dans le quotidien de se. De. Peut-être de plus être connecté à ce qu'on ressent, parce que t'as raison, on est beaucoup dans notre tête parce qu'on a des choses à faire et il y a certainement plein de moments où on se déconcentre de nos sens et c'est peut-être un peu dommage parce que. Enfin, mais je pense que c'est un phénomène de société assez global où on est dans la
Exactement.
performance et la performance dans la performance le corps il gêne en fait il est jamais enfin c'est pas pour rien que
Exactement.
l'intelligence artificielle il y a un
Et
rapport
là,
un
ouais.
peu particulier
Toi
avec
qui réfléchis, ouais.
ouais bah c'est je trouve que
Toi qui
ça
réfléchis beaucoup à
les gens je
ça.
pense en ont peur notamment pour ça parce qu'on est dans une culture de la performance si on l'était moins imaginons qu'on serait dans une culture où l'art avant tout serait ce qu'il y a de plus important, autre paradigme, ce serait pas très grave en fait.
Ben.
Mais comme on est dans une culture,
Carrément.
dans une société capitaliste où c'est. Et c'est un fait
On
en
n'est pas une
fait,
culture
c'est.
de
Ouais, on
corps,
n'est pas dans une
hein.
culture de corps, de fait.
Contrairement peut-être à certains pays
Oui.
orientaux où j'ai l'impression, enfin, je suis jamais allée, hein, moi en Orient, je reste qu'une chose, c'est d'y aller, où j'ai l'impression que le corps a quand même plus sa place, que nous, on est quand même plus orienté esprit, 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 et comme tu dis, performance, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont malades aujourd'hui, hein.
Oui, de fait. Enfin, c'est il y a comme on parlait tout à l'heure, il y a un spectre et dès qu'on est dans un extrême, on est à côté de la vie. La vie, elle est sur le spectre en permanence en train de bouger d'un extrême à l'autre, mais elle est globalement rarement sur les extrêmes. Enfin, elle est rarement polarisée en fait. Et oui, les êtres humains, on a tendance à voir le monde plus facilement en le mettant dans des boîtes, dans des concepts, parce que c'est notre façon à nous de jongler avec le monde, mais c'est virtuel en fait. La réalité, elle n'est pas comme ça. Mais après, on finit par y croire à cette réalité-là, et c'est un peu dommage. Et là, je trouve qu'on
Ouais.
est un peu dans un extrême où oui, on a
C'est
tendance à
ça, et
oublier
ça
un
va
peu
être
le
peut-être
corps,
de
quoi.
pain. Peut-être ça va être de pire en pire. Enfin, je sais pas parce que je réfléchis pas tant à ces sujets-là, mais de l'intelligence artificielle, et c'est là qu'on a besoin de philosophes parce que il faut qu'on puisse penser à demain, quoi, par rapport à toutes ces technologies qui arrivent. Comment on va faire vis-à-vis de ce corps, hein, parce qu'avec le transhumanisme et tout ça, il y a aussi des questions qui se posent. Comment on va faire, quoi? Là, il y a beaucoup de choses à réfléchir, hein. Là, c'est sûr que ouais, il y a du boulot aussi, quoi.
Yes. Écoute, je suis très
Je
contente
fais.
d'avoir échangé ensemble. C'est
Moi aussi,
vraiment un
c'était
sujet
chouette.
qui est original et Et je pense que, enfin, quand tu dis qu'il y a une perspective féminine particulière sur la sensualité, je pense que c'est pas, enfin, c'est pas pour rien que ça a été peu traité en philosophie, puisque en philosophie, il y a quand même beaucoup d'hommes, tristement, de moins en moins, et heureusement. Mais je pense que c'est notamment un des sujets qui émergent parce que probablement que il y a des, ouais, y a des gros angles morts dans la philosophie, que la sensualité en fait partie, qu'il y a, que la quotidienneté, comme tu disais aussi tout à l'heure, le quotidien. Et à titre personnel, clairement, je vois bien que la philosophie, en tout cas, je l'utilise, je dirais presque comme un super développement personnel. C'est-à-dire, le développement personnel, pour moi, c'est un peu léger et creux par plein
Carrément.
d'aspects, même si ça m'intéresse de lire des choses. Mais que la philosophie, c'est là où il y a de la vraie réflexion sur la vie, mais
Carrément.
qui a quand même des gros
Il y a un
angles
avant et un après,
morts,
hein.
et je suis assez contente d'être à une époque où il y a des nouvelles choses qui émergent, en fait, des nouvelles réflexions, et on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses vers l'Antiquité, il y a eu un peu après, ouais, à l'époque de Nietzsche, tout ça, et que là, on est enfin, finalement, depuis, ouais, depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin, depuis Sartre et tout, il y avait
Il
un
n'y
peu un
passe trop de
trou, et
souffle.
puis là, il y a à nouveau des nouvelles choses à penser, quoi. Donc ça fait émerger de
Bah, de
nouvelles
toute façon, ouais.
réflexions.
Bon, en même temps, le postmodernisme a tout voulu éclater. Donc
Dont la philosophie, du
là,
coup.
bienvenue dans l'éclatement.
Ouais.
Dont la philosophie, et comme tu dis, ouais, c'est peut dire que la philosophie, je te rejoins, c'est pas du développement personnel, mais il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant la philosophie, avant de l'étudier, voilà, ok. Et puis après l'avoir étudié, et là, du coup, être arrivé en bout de cursus à ce master, et en fait, c'est que le début, hein, parce qu'on sait très bien que c'est sans fin. Hein. J'ai pas encore lu tous les bouquins philo, non, loin de là, j'aimerais bien. Mais c'est qu'un début. On se dit, oui, il y a une vie avant, puis surtout, il y a une vie après. Et la vie après, elle nous promet plein de choses. Et ouais, il y a plein de sujets encore à creuser, à déterminer, à approfondir. Donc chouette.
Ouais, moi aussi, je trouve ça
Chouette.
très chouette. Ouais, c'est super. Je suis très très contente d'avoir discuté ensemble. Là, je vais appuyer sur
Merci
stop.
pour ton invitation.
Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton suivre ou s'abonner de votre appli. Et puis vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com, stefets.com, pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt!